Géopolitique. Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Géopolitique. Contre toute attente, ça n'est pas une vague républicaine qu'on a vue cette semaine déferler sur les États-Unis à l'occasion des midterms. Les Américains étaient appelés aux urnes 2 ans après avoir élu Joe Biden à la Maison-Blanche. Un vote pour choisir la couleur, cette fois, de la Chambre des représentants et du Sénat. Si d'ordinaire ce scrutin joue en défaveur du pouvoir en place, les démocrates ont réussi à sauver les meubles. À l'heure où nous enregistrons cette émission, les républicains sont en passe de remporter la majorité à la Chambre des représentants, avec une avance, certes, mais relativement courte, et c'est encore plus flagrant au Sénat, où les deux partis se battent à un siège de différence et où les résultats définitifs ne seront connus qu'en décembre, car l'État de la Géorgie organise un deuxième tour pour départager des candidats au coude à coude. Ce scrutin est-il finalement une bonne nouvelle pour le président américain? Quel impact aura-t-il sur le paysage politique à l'intérieur de ces deux partis? Et comment ce nouvel équilibre des pouvoirs au Congrès impactera le programme de Joe Biden? Nous en parlons avec nos deux invités du jour. Anne Desine, professeure émérite, juriste et américaniste, spécialiste des questions politiques, sociales et juridiques aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Golub, politologue et professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
C'est la première chose qui a surpris au lendemain de ces élections de mi-mandat. Le vote républicain était attendu, certes. C'est presque même une tradition américaine de choisir un congrès d'une couleur différente de celle du président 2 ans après sa prise de fonction. Les élections de mi-mandat sont en quelque sorte un témoignage d'approbation ou au contraire un rejet du bilan du président. Le rouge vainqueur, donc, attendu, mais pas en si petite quantité. Que s'est-il passé, Philippe Golub? Pourquoi est-ce qu'on a été si peu visionnaire?
Les sondages étaient partagés en réalité sur les résultats des élections. Des sondages de quelques instituts universitaires qui avaient travaillé sur le fond semblaient indiquer une courte victoire républicaine ou pas de victoire républicaine du tout. D'ailleurs, dans certains cas, contrairement aux sondeurs officiels. Donc il y a eu des opinions différentes sur ce qui allait se passer. Il y avait une très grande incertitude sur les résultats. Ce que nous avons pu constater lors de l'élection, c'est une très forte mobilisation de deux couches sociales importantes. D'abord, les femmes, qui ont voté très largement, massivement d'ailleurs, y compris des femmes républicaines à l'origine ou des indépendantes, qui ont voté autour de la question de l'avortement contre le Parti républicain. Donc la Cour suprême ultra-conservatrice, d'extrême droite d'ailleurs, au plan idéologique, mise en place par Trump, a fini par jouer contre le Parti républicain sur cette question-là. Et deuxièmement, une mobilisation plus large qu'attendue, côté démocrate, de la population afro-américaine, mais aussi de la population latino, que certains donnaient comme pouvant passer du côté du Parti républicain, ce qui ne s'est pas vraiment passé. Ça s'est passé dans certaines circonscriptions, mais pas partout. Et donc nous avons là la preuve qu'il y a aujourd'hui, en réalité, en termes de nombre, en termes de voix, il y a encore une majorité démocrate dans le pays au niveau électoral. C'était vrai lors de l'élection présidentielle. Biden avait 8 millions de voix d'avance. C'était vrai lors des dernières élections législatives, midterms, en 2018. Et c'est vrai encore aujourd'hui, au plan du vote populaire, les démocrates aujourd'hui représentent une nette majorité de la population.
Vous venez de l'expliquer pour les femmes, en parlant notamment du débat sur l'IVG qui a cristallisé un petit peu ces midterms. Pour l'autre catégorie de population, comment est-ce qu'on explique cette mobilisation?
Là, il y a une mobilisation autour des questions d'égalité, de justice. La population afro-américaine fait depuis très longtemps l'objet de mesures discriminatoires de la part des élus du Parti républicain dans les différents États fédérés américains, de par des programmes de redécoupage électoraux qui ont été mis en place dans le sud du pays, dans le Deep South, comme on dit, mais aussi au Texas, dans d'autres États tels que le Wisconsin. Selon une étude très rapide qui est sortie hier, sur les élections, si les redécoupages électoraux n'avaient pas été effectués comme ils ont été effectués, le parti républicain aurait perdu 12 voix de plus dans la Chambre. Et donc les démocrates auraient gagné la Chambre et le Sénat américain. Donc la population afro-américaine, très consciente du fait qu'ils sont discriminés au plan électoral dans de très nombreux États américains, se sont mobilisés justement pour affirmer leur droit à l'égalité politique aux États-Unis.
Alors Anne Desine, le taux de participation de ces élections, il n'est pas encore connu définitivement, mais il est estimé à 46-47% selon le Washington Post. Un chiffre qui est légèrement en deçà de la participation aux midterms de 2018, donc c'était 2 ans après l'élection de Donald Trump. Comment est-ce qu'on pourrait analyser aussi cette mobilisation pour des midterms, alors que quand Obama avait été élu, il y avait beaucoup moins de gens aussi qui se rendaient aux urnes?
Parce que les enjeux étaient considérables. À la catégorie de ceux qui ont plus voté, je rajouterai les jeunes aussi. Les jeunes qui d'habitude se mobilisent peu.
Et moins de 30 ans qui sont environ
27%. Ils ont voté. Ils ont voté parce que finalement, Biden, malgré son âge avancé, a pris des mesures pour les jeunes. L'annulation de leur dette pour l'université, c'était important. Le fait qu'il était assez ouvert à une certaine légalisation de la marijuana aussi. Et puis le fait que Biden et les démocrates ont montré que cette élection, ce n'était pas comme d'habitude un référendum pour ou contre le président en place, c'était aussi un choix entre deux systèmes économiques et deux systèmes politiques. Système économique, parce que quand même, les démocrates, ils en ont trop fait autour de l'avortement, qui leur a paru comme un cadeau tombé du ciel, mais ils ont réussi à faire passer le message que le président Biden a fait adopter des lois, et des lois qui sont bonnes. Et dernièrement, pendant l'été, une loi qui permettait de baisser le prix des médicaments, qui limitait le prix de l'insuline, et plusieurs choses qui protègent ce à quoi les Américains sont attachés, Social Security, c'est-à-dire le système de retraite, Medicare, la santé pour les plus de 65 ans, alors que les républicains, bon, ils ne le disent pas trop, ils ont surtout fait campagne en disant le bilan économique de Biden est nul, etc. Mais on sait très bien que dès qu'ils sont au pouvoir, ils s'attachent beaucoup à l'équilibre budgétaire, qu'ils ne respectent pas quand ils sont eux au pouvoir. Mais là, dès que ce sont des démocrates, il faut, et donc il faudrait couper dans tous ces programmes sociaux que détestent les républicains. Donc en fait, il y a eu une mobilisation très forte, et sur le système politique aussi, parce que bon, certains ont pensé que le président Biden et d'autres exagéraient quand ils disaient que la démocratie est en jeu, mais c'était un petit peu vrai. Philippe parlait des États du Sud qui ont modifié leur législation électorale, mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle en anglais voter suppression, de façon à rendre plus difficile, comme par hasard pour les minorités qui votent démocrates, d'aller voter. Il y a eu des suppressions de bureaux de vote dans les circonscriptions peuplés par les minorités et par les démocrates. Il y a eu des suppressions de votes anticipés, les early voting, alors qu'on sait que les pauvres votent durant ces périodes parce qu'ils ne peuvent pas se libérer le jour du vote, parce qu'ils travaillent. Il y a eu des difficultés, enfin des obstacles ajoutés pour s'inscrire sur les listes électorales. L'obligation d'une pièce d'identité spéciale avec une photo. Alors ça nous paraît assez évident, nous, qu'il faille montrer une pièce d'identité pour voter. Mais il faut bien penser que dans le système américain, avec tout l'historique de discrimination, ce n'est pas du tout évident. Ça, ce sont des mesures qui, en surface, semblent s'appliquer à tous, mais comme l'a bien dit la juge Kagan, une juge progressiste à la Cour suprême, quand elle s'opposait à une décision, enfin, une énième décision prise par les radicaux de droite, ça a l'air de s'appliquer à tout le monde, mais finalement, ceux sur qui pèse ce fardeau de rendre le vote plus difficile, ce sont les minorités. Que ce soit les Indiens qui ont interdit de confier un bureau de vote à son voisin, ou que ce soit les Noirs qu'on oblige à faire des kilomètres ou de faire la queue pendant 6 heures pour pouvoir voter.
Une menace sur la démocratie, effectivement, vous l'avez évoqué. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, on y reviendra plus tard dans l'émission. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'autrice du livre « Les États-Unis et la démocratie » chez l'Harmattan.
Oui, c'est malheureusement d'actualité.
Exactement. Autre chose également au niveau de la mobilisation. Localement, il y a certains États comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan où on atteint des records de mobilisation, alors que dans d'autres, on est très en deçà de ce qui se fait d'habitude, notamment dans le Mississippi et le West Virginia. Est-ce que ça peut s'expliquer localement ces fortes mobilisations?
Très souvent, ce qui mobilise, ce sont ces fameux référendums, ce qu'ils appellent ballots en anglais, des référendums d'initiative directe. Alors c'est vrai que quand il y avait la marijuana récréative ou une protection du droit à l'avortement, bien sûr, les gens sont allés voter beaucoup
plus. Parce qu'on en profite, comme les gens viennent au bureau de vote pour organiser d'autres...
C'est-à-dire que les élections de mi-mandat, enfin comme toutes les élections aux États-Unis, il ne faut absolument pas s'imaginer que c'est facile comme nous, on met un petit bulletin. C'est très compliqué parce que chaque électeur doit se prononcer pour des dizaines de postes. Alors bien sûr, son représentant à la Chambre, peut-être un sénateur, peut-être un gouverneur, mais tous les élus de l'État, généralement il y a 2 chambres, et puis tous les postes locaux, shérif, bureau des écoles, dans beaucoup d'États, les juges, y compris des juges de Cour suprême. Il y a des États dans lesquels c'est très important parce que selon les résultats, et je n'ai pas eu le temps de regarder, en Caroline du Nord par exemple, la Cour suprême qui pour le moment est progressiste va peut-être virer républicaine. Or, c'est la Cour suprême de l'État qui se prononce sur les questions de découpage électoral, dont on sait qu'ils accordent un avantage d'à peu près 5 points aux républicains. Les démocrates, ou les progressistes, disons, sont majoritaires dans le pays, ça se voit à tous les scrutins qui ont été remportés. Exactement. Pour l'avortement, la marijuana, etc. On voit bien que même des gens qui votent républicains et ceux qui sont indépendants, ils sont plutôt progressistes. Et donc, ben, ces gens-là se sont déplacés parce que... Il y a aussi un autre facteur qui a joué beaucoup, c'est quand dans l'État, il y avait un secrétaire d'État qui est election denier. Alors le secrétaire d'État, c'est celui qui organise les élections et qui surtout les certifie. Donc c'est un rôle pivot. C'est celui qui peut tricher ou qui refuse de tricher, comme un républicain qui est mon héros, Raffensperger, en Géorgie, qui pendant une heure a résisté aux pressions de Trump pour trouver 11 780 voix.
La Géorgie est d'ailleurs en procès contre Donald Trump, il me semble.
Oui, alors tout à fait. La procureure d'un des comtés a lancé toute une opération avec un grand jury, la convocation des proches de Trump. Et c'est un petit peu une des nombreuses casseroles qui pèsent sur Trump. La Géorgie, c'est aussi un État important. Alors, vous avez à juste titre souligné qu'il y aura un deuxième tour le 6 décembre, qui ne serait peut-être pas indispensable si par hasard les démocrates remportent les deux États qui sont encore en train d'être comptabilisés, le Nevada et l'Arizona. Mais si par hasard les démocrates passaient à 51 sièges, ça c'est Byzance, parce que là, ils peuvent contrôler les commissions au lieu de devoir tout négocier avec les républicains actuellement parce qu'ils sont à 50-50. Donc il y a pas mal d'enjeux. N'est-ce pas ?
Je voudrais simplement ajouter ce panorama très complet que vous venez de brosser. L'idée que si le Sénat aux États-Unis était voté vraiment de façon démocratique, c'est-à-dire selon des principes de suffrage universel, plutôt que deux sénateurs par État, parce qu'aux États-Unis, il y a cette particularité curieuse, antidémocratique, au fond, qui est que tous les États fédérés des États-Unis ont deux sénateurs, que l'État ait une population de 790 000 habitants, comme le North Dakota, ou New York State, qui a une population de 29 millions, ou la Californie, 39 millions. Donc c'est une curiosité de ce déséquilibre-là. Si le Sénat était véritablement représentatif au plan du suffrage universel, les démocrates aujourd'hui seraient déjà très, très largement majoritaires au Sénat des États-Unis.
Mais alors, ce point qui est très important, ce trait constitutionnel, c'est l'un des nombreux traits antidémocratiques, mais qui sont dus à l'histoire. C'est parce qu'au moment où la Constitution a été rédigée, il fallait rassurer les petits États qui déjà avaient peur
du Sud,
de se faire manger dans
les particuliers. Les États esclavagistes du Sud.
Oui.
Le collège électoral américain, le collège électoral, autre curiosité constitutionnelle, le collège électoral a été mis en place par les États sudistes, esclavagistes, avec pour objectif de maintenir le contrôle du système politique américain. Dans le comptage des voix, dans le décompte des voix pour le collège électoral, qui est une manière indirecte d'élire le président des États-Unis, la première constitution américaine incluait trois quarts des esclaves, chaque esclave comme trois quarts d'un vote. Et donc les sudistes pouvaient compter trois quarts de leur population esclave dans la délimitation de ce qui serait après le vote du collège électoral. Alors, dans le cas de la Virginie, par exemple, la population esclave étant à l'origine à peu près égale à la population libre blanche, ça comptait beaucoup. Donc le système constitutionnel américain à l'origine est un système en fait fondamentalement non démocratique. Le Sénat, le collège électoral et bien sûr la Cour suprême, la nomination à vie de la Cour suprême.
Cela étant, il ne s'est jamais voulu démocratique, mais au fil du temps, ça pose un problème de plus en plus grand. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le modifier parce que la procédure d'amendement est tellement compliquée.
Tout à fait.
Et que ceux qui devraient ratifier l'amendement, en admettant même qu'il soit d'abord adopté, ne ratifieront jamais parce que ce serait travailler contre eux-mêmes, demander aux petits États de ratifier une situation dont ils profitent. Et en plus, si mes souvenirs sont exacts, la Constitution interdit de changer le nombre de sénateurs.
Absolument.
Donc on est coincé. Et c'est ça le vrai problème actuellement aux États-Unis, c'est qu'il y a de plus en plus un écart large entre le sentiment dans le pays qu'on voit bien dans la façon dont les gens votent, la réaction à la décision Dobbs sur l'avortement, mais la façon dont ça peut se traduire dans les institutions. Et quand on ajoute à ça le découpage électoral partisan, et bien finalement, les mouvements d'opinion progressistes, pour faire simple, pas seulement démocrates avec un grand D du Parti démocrate, ne peuvent pas se traduire dans les institutions et dans le fonctionnement institutionnel. Et c'est pour ça que, quelque part, où une solution sera trouvée, moi personnellement, je n'en vois pas trop, ou bien ça va éclater.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Vous avez évoqué également, Anne-Désine, donc la complexité de ces élections et la multitude aussi des votes qu'on soumet à la population à ce moment-là. Est-ce que c'est pour ça que le dépouillement prend autant de temps ? Puisqu'on pourrait s'attendre à avoir des résultats, bon, avec le décalage horaire peut-être 2 jours après. Or, ce n'est pas du tout le cas.
Alors, l'une des difficultés, c'est que dans les pays qui ont le vote par correspondance, les bulletins sont envoyés, mais certains États interdisent de commencer même à traiter les bulletins, je ne parle pas de les compter, les traiter, c'est-à-dire vérifier le nom, vérifier la signature, avant la fin du scrutin le jour des élections, donc cette année avant le mardi 8. Et ensuite, il faut donc traiter toutes ces dizaines de milliers, parfois centaines de milliers de bulletins, donc je répète, vérifier la signature, parfois il faut un témoin, vérifier que l'adresse du témoin est bien indiquée, et les Républicains sont en train d'essayer de s'engouffrer dans toutes les brèches. L'adresse est incomplète, on ne peut pas compter ce bulletin. La date est mal mise, on ne peut pas compter ce bulletin. Donc là, pour le moment, moi je suis assez rassurée par ces élections, mais j'espère que le comptage ne va pas donner lieu à des problèmes. Là, Madame Carrie Lake, la candidate républicaine, celle qu'on appelle la Trump en talons aiguilles. Pour le moment, elle est plus calme que ce qu'on pouvait craindre, mais elle commence à répondre dans les réseaux sociaux. C'est quand même bizarre que ça prenne tant de temps, alors que c'est normal. Les responsables électoraux, y compris un républicain, très bien, M. Bill Gates, explique c'est normal, ça va prendre du temps, etc. Mais elle commence à dire si ça prend du temps, c'est contre nous, ils ne veulent pas compter les voix des républicains. Et malheureusement, ce genre de phrase qui nous paraît un peu ridicule de ce côté de l'Atlantique s'est repris par les boucles cognitives des réseaux sociaux. Alors, pas seulement Facebook, Twitter, Dieu seul sait ce qui va se passer avec Twitter, mais tous les réseaux sociaux de droite, comme Parler, par exemple.
D'extrême droite.
Oui.
Philippe Golub, j'aimerais que vous réagissiez à une citation d'un de nos confrères journalistes correspondant à Washington pour le journal Le Monde, Piotr Smolar. La différence entre une victoire et une défaite tient parfois à la perspective, et pas seulement aux chiffres bruts, au contraste entre les attentes et les résultats. En d'autres termes, est-ce qu'on doit voir ces résultats comme une victoire pour les démocrates et ou comme une défaite pour les républicains ?
C'est certainement une défaite relative pour les républicains, puisqu'ils ont, annoncé à l'avance, aventureusement d'ailleurs, qu'ils allaient remporter une victoire écrasante sur le Parti démocrate et que ce serait une marée rouge qui allait déferler sur les États-Unis. Ils ont eu tort, fondamentalement tort, et cela implique bien sûr qu'il y aura au sein du Parti républicain, et on le verra sans doute dans cette discussion, il y aura des règlements de compte assez violents qui vont avoir lieu. Non, c'est une défaite relative pour les républicains et une victoire relative pour les démocrates, puisque habituellement dans le système politique américain, les midterms sont un moment où ceux qui sont au pouvoir, les incumbents, comme on dit aux États-Unis, perdent un nombre important de voix. Sous Obama, les midterms, les démocrates avaient perdu plus de 50 sièges. Sous Bill Clinton, en 1994, les démocrates avaient perdu encore plus, menant à une très grande victoire républicaine sur les deux chambres en 1994. Donc le résultat démocrate est quelque part inespéré par la plupart des dirigeants démocrates eux-mêmes. Donc défaite relative républicaine, victoire relative des démocrates, sans pour autant être absolument décisif. Une victoire décisive serait si les démocrates avaient remporté les deux chambres, n'est-ce pas ? Ce qui ne semble pas pouvoir être le cas, du fait des redécoupages électoraux dont nous avons parlé, qui défavorisent les démocrates dans tout le Sud et dans d'autres États des États-Unis.
Surtout, juste une petite chose sur le découpage électoral. Il y a un certain nombre d'États plutôt démocrates dans lesquels il y a des commissions électorales ou des juridictions qui ont retoqué le découpage électoral partisans des démocrates, ce qui explique les problèmes de plusieurs élus démocrates dans l'État de New York. Oui. C'est-à-dire que là, les malheureux démocrates, ils ont des problèmes des deux côtés. Ils ont le découpage partisan des républicains en leur défaveur, mais quand eux-mêmes essaient de trichoter de leur côté, comme il y a des juridictions un petit peu plus éthiques dans leurs États, les juridictions retoquent leur découpage électoral partisan.
On va poursuivre notre discussion dans quelques instants avec vous, Anne-Désine et Philippe Golub, notamment au sujet du changement qui pourrait y avoir dans le paysage politique du côté républicain notamment, et puis de l'avenir de Donald Trump et Joe Biden. Ce sera juste après le journal sur RFI.
Géopolitique.
Amélie Beaucourt.
Et on retrouve nos deux invités pour analyser les élections de mi-mandat aux États-Unis. Anne Desine, professeure émérite, juriste et américaniste, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Et Philippe Golub, politologue et professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Je signale aussi au passage que deux numéros de géopolitique étaient consacrés la semaine dernière aux États-Unis. N'hésitez donc pas à y jeter une oreille. Les résultats définitifs, on l'a dit, ne seront pas connus tout de suite, notamment car la Géorgie organise un second tour. Vous l'avez dit, Anne Desine, qui ne sera pas forcément nécessaire d'ailleurs. Deux candidats sont au coude à coude pour le moment. Le sénateur démocrate sortant Raphaël Warnock et son adversaire républicain Herschel Walker. Et aucun ne semble en mesure de passer la barre des 50% des suffrages qui sont nécessaires dans l'État pour décrocher une victoire au premier tour. Rappel donc des citoyens aux urnes le 6 décembre. En attendant les résultats définitifs, nous avons demandé au journaliste Sébastien Natrol de décrypter les scénarios possibles.
La réponse est assez simple, c'est que les républicains et les démocrates devront travailler ensemble si jamais ils veulent aboutir à quelque chose au niveau fédéral. Ça semble assez peu probable puisque du fait du contexte de forte polarisation politique, les républicains et les démocrates ont de plus en plus de mal à s'entendre. Ce qui fait que le pouvoir législatif fédéral américain sera plus ou moins bloqué si l'une des deux chambres tombe aux mains du parti républicain.
Si la majorité, en revanche, au Sénat est républicaine, qu'est-ce que ça changerait pour le gouvernement de Joe Biden ?
Alors pour le gouvernement de Joe Biden, il ferait peut-être face à des textes auxquels ils sont plutôt hostiles. Encore faut-il que les républicains puissent eux aussi surmonter le problème du filibuster, donc un système d'obstruction parlementaire qui nécessite 60 voix pour passer un texte au Sénat. Et si jamais tel est le cas, Joe Biden aurait la possibilité de faire veto sur les textes auxquels il est le plus hostile.
Quel levier est-ce qu'il lui resterait en tant que président de la République pour mener à bien son projet ? Est-ce qu'il a des armes propres qu'on ne peut pas lui ôter ?
Alors, il y a une arme qu'on ne peut pas lui ôter, c'est celui des executive orders, donc qu'on traduit en français plus ou moins par décret présidentiel. Il y a néanmoins un problème de taille, c'est qu'il peut agir de ce point de vue-là, mais ses pouvoirs ne sont pas non plus illimités. C'est-à-dire qu'il peut diriger une politique, notamment à donner des instructions aux agences fédérales, mais là encore, il peut agir donc de deux manières, soit en ses pouvoirs propres conférés par la Constitution, bien que la Constitution ne parle pas d'executive order, mais il a été jurisprudentiellement accepté que le président pouvait recourir à ses actes exécutifs, ou alors en cas de délégation express accordée par le Congrès. Donc c'est ce qu'avait fait Biden ou Trump dans le cadre du Covid, en se servant d'un texte voté par le Congrès qui lui permettait d'agir pour diriger la production en cas de crise majeure.
Troisième scénario possible, si aucun des deux partis ne remporte la majorité au Sénat, donc si les démocrates et les républicains ont chacun 50 sièges, ce serait à la présidente du Sénat, c'est-à-dire la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui est évidemment de la même couleur politique que Joe Biden, de départager les sénateurs. Est-ce que ça veut dire que l'avantage au Sénat serait de toute façon démocrate ?
Alors oui, il y aurait un avantage démocrate, et notamment sur un point vraiment important, c'est que c'est le Sénat qui confirme les nominations du président, donc en ce qui concerne notamment les ambassadeurs, mais surtout les juges fédéraux. C'est pourquoi il est assez important pour les démocrates de conserver cette majorité, aussi mince soit-elle, au Sénat pour pouvoir nommer des juges.
Autre question pour vous, Sébastien Natrol. Les midterms étaient aussi les élections des gouverneurs des États-Unis. Quel rôle est-ce qu'ils assurent dans la politique américaine ?
Alors, pour faire très simple, ils assurent le même rôle que celui du président des États-Unis au niveau fédéral. Eux, ils le font au niveau des États. C'est le gouverneur qui promulgue les lois dans les États.
Est-ce qu'il y a un intérêt alors à ce qu'il y ait davantage de gouverneurs démocrates pour Joe Biden ou ça ne change pas sa politique à lui ?
Alors lui, il s'occupe surtout de la politique fédérale, donc il n'y a pas vraiment de problème, si ce n'est encore que ce sont les États qui organisent les règles des élections. Et avoir un gouverneur démocrate, c'est également un gouverneur qui peut faire veto sur des textes issus de pouvoirs législatifs républicains au sein des États.
Sur le déroulé général de ces élections, est-ce que vous avez une remarque particulière à faire ou quelque chose à ajouter ?
On a pu observer dès le départ, notamment en Arizona avec Carrie Lake, c'est qu'elle n'a pas attendu pour laisser entendre qu'il y avait possibilité de fraude. Alors maintenant qu'elle est au coude à coude avec sa concurrente démocrate, on l'entend un petit peu moins sur ce sujet. Et de la même manière que Donald Trump, sur son réseau social, avait, sans attendre, appelé ses fans à protester après avoir évoqué des problèmes vis-à-vis du vote par correspondance dans le Michigan. Donc il y a vraiment une volonté délibérée de la part des républicains de jouer les troubles faits, et c'est une petite musique illibérale qui continue à se faire entendre au sein de ce parti, qui est plutôt problématique pour l'avenir de la démocratie américaine.
L'analyse de Sébastien Natrol, journaliste indépendant spécialiste des questions politiques aux États-Unis. Anne Desine, vous souhaitez réagir à l'analyse de
Sébastien Natrol? Oui, juste pour nuancer certaines bricoles, par exemple. Bien sûr, la vie ne sera pas très facile pour le président Biden si la Chambre est entre les mains des républicains. Cela étant, une partie de l'incertitude va tenir au rôle que va jouer Donald Trump. Moi, je considère que ces élections, c'est une victoire pour la démocratie et les démocrates petit d, puisque ça s'est bien passé. Et c'est une défaite cuisante pour M. Trump, parce que beaucoup des candidats qu'il a parachutés étaient mauvais et n'ont pas remporté l'élection. Je pense à un secrétaire d'État, en particulier en Arizona, qui a perdu de façon très très nette parce qu'il était election denier et il avait annoncé qu'il ne certifierait pas les résultats des élections.
Comment le Parti républicain, justement, va pouvoir...
Justement, c'est ça qui va jouer dans les jours qui viennent. Je pense que Philippe nous parlera de la montée du gouverneur de Floride, mais comment les choses vont se mettre en place? Une des hypothèses un peu optimistes, c'est que Trump va perdre une partie de son pouvoir de nuisance. Et dans ce cas-là, on peut espérer que le président Biden puisse faire passer des projets, parce qu'il faut voir qu'il a fait passer plusieurs projets qui sont bipartisans. Le plan Covid, le plan Inflation, qui était à la fois médical, social, etc.
Et l'infrastructure.
Voilà, le plan d'infrastructure, très important, puis le tout petit projet, soi-disant, pour limiter le port d'armes. Enfin, c'est ce qui était vraiment le minimum syndical. Mais ça veut dire que ce qu'il avait annoncé, d'essayer de réconcilier les deux ailes et de travailler ensemble, ça s'est produit. Si les républicains, certains d'entre eux, je ne parle pas du Freedom Caucus, les plus excités, mais si certains d'entre eux ont moins peur de M. Trump, en plus, ils auront été réélus, ils ont 18 mois pour souffler, il est possible que quelques projets puissent être adoptés. Et puis, par contre, ce qui va vraiment rendre la vie très difficile au président, c'est qu'à la Chambre, ils vont lancer tout un tas d'enquêtes. Enquête sur le FBI qui a fait telle et telle chose, le fils Biden qui a fait telle et telle chose, la façon dont le président Biden a si mal géré la sortie de l'Afghanistan, ce qui est vrai, il l'a très mal géré, mais c'est quand même Trump qui avait décidé « il faut quitter l'Afghanistan », etc., etc. Et le Freedom Caucus, dont je vais parler, a envie de lancer des procédures d'impeachment. Ce que le leader potentiel, M. McCarthy, n'a pas très envie de faire. Mais lui, je pense qu'il va avoir une vie bien difficile avec tous ces gens du Freedom Caucus qui vont lui demander de prendre des positions extrémistes tout le temps. Donc c'est un petit peu ça, la situation.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important que pour les auditeurs en France et en Europe de comprendre que le spectre politique de la droite américaine est tiré de plus en plus depuis des années maintenant, sinon des décennies, vers l'extrême droite. Si on essaie d'analyser à la fois l'idéologie politique et la sociologie du Parti républicain, il ne s'apparente pas à un parti conservateur traditionnaliste européen, par exemple la démocratie chrétienne en Italie, le parti gaulliste en France, etc. Il s'apparente plutôt à une formation dont les différenciations idéologiques et politiques sont toutes teintées à l'extrême de la droite du spectre politique, avec tout à fait à droite des extrémistes politiques violents. Entre les deux, il y a Trump. Il y a DeSantis, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a été réélu triomphalement en Floride et qui visiblement, manifestement, a des ambitions présidentielles, qui les affiche assez clairement, et qui est un idéologue de droite aussi radical que Trump, bien que plus policé dans la manière dont il parle. En tout cas, parfois, il a sorti, Ron DeSantis a fait sortir une vidéo deux jours avant l'élection des midterms, une vidéo tout à fait étonnante et quelque part scandaleuse, dans laquelle il était affirmé à 8 reprises successives que Dieu l'avait choisi. God has chosen a leader, God has chosen a strong man. Que Dieu l'avait choisi, lui, personnellement, pour diriger les destinées implicitement de l'Amérique tout entière, de la Floride, mais donc de l'Amérique. Donc, Ron DeSantis n'est pas un modéré par rapport à un Trump extrémiste. Le Parti républicain va tirailler au niveau des ambitions personnelles plutôt que par les différences idéologiques très affirmées. Une différence importante entre Trump et DeSantis, à noter en politique internationale, c'est que Trump était quelqu'un, et évidemment mon affirmation là n'a aucune fonction de soutien idéologique de Trump, mais Trump était un est un non-interventionniste en politique internationale. C'est quelqu'un qui était mesuré de ce point de vue-là, avec des tendances isolationnistes, n'est-ce pas ? Tandis que DeSantis, c'est un interventionniste affirmé qui dit vouloir utiliser les forces armées américaines pour régler les problèmes politiques internationaux, que ce soit en Amérique centrale, dans les Caraïbes, il est tout près, en Floride, n'est-ce pas, en Amérique latine, mais aussi en Asie, au Moyen-Orient. Donc, un changement de la direction politique américaine pour les prochaines élections présidentielles ne signifie pas nécessairement un mouvement vers la modération politique, comme on l'entend ici en Europe.
Mais le gouverneur Ron DeSantis pourrait éclipser Donald Trump ?
Alors, nous ne savons pas encore. Nous savons que Donald Trump a encore en main des réseaux très influents au sein du Parti républicain, une partie non négligeable de la base, d'ailleurs, du parti très mobilisé derrière lui, derrière ses affirmations. Le Freedom Caucus en fait partie, mais c'est vrai au niveau populaire aussi. Il a un pouvoir de nuisance par rapport aux autres dirigeants du Parti républicain. Il sait beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Il les tient aussi pour des tas de raisons de leur compromission avec lui antérieure. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que Trump est hors jeu politique. On ne le sait pas encore, nous ne le savons pas encore. Et on ne sait pas non plus, si les autres dirigeants éventuels du Parti républicain ou candidats éventuels du Parti républicain pourront s'affirmer au niveau national, nous ne le savons pas.
Oui, alors il faut savoir que s'il y a des candidats qui se déclarent, ils vont être confrontés à Donald Trump en débat. Et nous avons vu ce qui s'est passé en 2016. Donc il faut avoir les reins extrêmement solides pour résister aux insultes, aux surnoms. D'ailleurs, Ron DeSantis s'est déjà fait appeler Sanctimonious, c'est-à-dire le moralisateur,
pour
etc.
Pour sa vidéo sur Dieu.
Voilà.
C'était en réaction à
voilà,
sa vidéo
tout
sur
à fait.
Dieu.
Mais aussi parce que Trump se rendait compte que ça devient un adversaire sérieux et qu'il fallait peut-être essayer de le préempter, de le détruire un petit peu avant qu'il ne s'annonce. Mais les autres candidats, Mike Pence, on ne parle pas du tout de lui. Pourtant, il essaie de faire une tournée autour de son bouquin. Il ne se passe rien du tout. Mais il faut voir qu'il y a toujours ces 30% qui sont très pro-Trump. Mais même parmi ces pro-Trump, il y en a qui sont en train de se dire quand même, il est très clivant. Et les pragmatiques se rendent compte. Ils voient d'autres sondages qui montrent qu'il y a entre 60 et 65% des électeurs qui jamais ne voteront pour Trump. C'est-à-dire que choisir Trump, lui accorder l'investiture, ou qu'il se l'accorde lui-même en détruisant les autres, l'investiture du Parti républicain, c'est quand même une recette assez sûre pour un nouvel échec en 2024. Donc il est possible que les cartes bougent assez rapidement. Et M. Trump, qui était, paraît-il, dans une colère noire le soir des élections, se rend compte que le climat ne lui est plus aussi favorable.
Vous écoutez Géopolitique.
Au niveau des candidats, est-ce que tous les deux, vous avez été surpris de l'éviction ou au contraire de l'élection d'un député en particulier, d'un sénateur en particulier ou d'un gouverneur en particulier? Vous parlez tout à l'heure de vos chouchous, Andesine.
Je suis très contente. Les résultats du Michigan sont bons pour les démocrates parce que la gouverneure était la bête noire de Trump qui l'appelait « cette bonne femme du Michigan ». C'est une femme jeune, dynamique, etc. et qui a essayé d'être responsable devant la crise du Covid. Ce qui fait que des groupes d'extrême droite ont cherché à la kidnapper et à la tuer. D'ailleurs, les gens en question ont été arrêtés et, si mes souvenirs sont exacts, condamnés. Et en fait, elle a réussi à faire élire avec elle tout un tas de gens. Je pense le ministre de la Justice, le secrétaire d'État en charge des élections, etc. Et puis plusieurs des ballots, des référendums, sont passés avec des chiffres très très bons et en particulier l'inscription dans la Constitution d'un droit à l'avortement. Donc c'est quelqu'un qui a montré, elle avait été très très bonne durant la présidence Trump, c'est quelqu'un de solide, etc. Mais là, sa réélection, la réélection des troupes démocrates et le passage des ballots montre que c'est quelqu'un avec qui il faut compter.
Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Pour ce qui me concerne, je voudrais ajouter que la performance des candidats de la gauche du Parti démocrate, progressiste dans le sens originel du terme, Democratic Socialist en particulier, autour de Bernie Sanders, ont eu des performances assez bonnes pendant ces élections, surtout des femmes d'ailleurs, surtout des femmes. Il y a un contingent de membres du Congrès, femmes jeunes, militante, intelligente et capable, qui ressemble en partie à Alexandria Ocasio-Cortez, peut-être sans son dynamisme, n'est-ce pas, et son charisme, n'est-ce pas, qui a été réélue triomphalement, elle aussi, à New York, n'est-ce pas. Il y a au sein, dans la base du Parti démocrate, il reste, donc il y a une dynamique qui est durable, dans la gauche du parti, à gauche du parti central, qui est durable et qui va continuer à peser sur la politique du parti et donc de la politique américaine.
Oui, avec le problème que, de même que le Parti républicain est fracturé, il y a une fracture réelle au sein des démocrates, parce que les élus un petit peu centristes, je pense à Abigail Spanberger, qui a été réélue, mais ce n'était pas du tout gagné, trouvent que ces élus qui sont trop à gauche leur rendent la vie plus difficile. Et c'est dû au fait que dans un État très bleu, très démocrate, c'est très facile pour AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, de se faire réélire sur un programme extrêmement progressiste. Simplement, lorsque l'élu en question, l'élu démocrate, est élu dans une circonscription violette, mauve, où ce n'est pas si évident, bien sûr qu'elle doit modérer son discours. Et cela lui pose problème si le Parti démocrate est décrit par les républicains comme étant beaucoup trop à gauche. Donc là, il va falloir résoudre cette différence. Mais à cet égard, le président Biden, malgré son âge, c'est vrai qu'il fait très très âgé, il a toujours dit « je vais essayer d'être modéré, je vais essayer d'être centriste, je vais essayer d'agir de façon bipartisane ». Et finalement, ça n'a peut-être pas si mal marché, et c'est peut-être ce que les électeurs ont apprécié.
Comment vous voyez justement la suite de son mandat après ces
de Joe Biden? Joe Biden a encore 2 ans devant lui. Comme Anne l'a dit très justement, c'est un président qui, à la fois, a une très, très réelle légitimité, une forte légitimité, mais qui est vieillissant et manifestement vieillissant, qui vient d'annoncer qu'il annoncerait sa décision pour les prochaines élections dans un an, donc laissant le Parti démocrate dans une forme d'attente devant le choix possible dans les choix possibles futurs. Il me semble difficile pour lui de se représenter, nous en avons discuté Anne et moi avant cette émission, ce serait difficile pour lui de se représenter en 2024, son est visible, se montre. Mais pour l'instant, ces élections ont renforcé sa légitimité, ont renforcé ses capacités d'action, dans le sens que sa légitimité étant plus forte que d'habitude après les midterms, il aura une voix à la fois législative et politique en interne, mais aussi une légitimité plus grande au niveau international. Oui, ça le conforte au plan international.
Tout à fait. Ce n'est pas du tout dans son intérêt de déclarer qu'il ne va pas être candidat, parce qu'il deviendrait un lame duck, un canard boiteux instantanément. De surcroît, les règles du financement des élections voudraient dire que chaque déplacement qu'il fait devrait être quelque part financé sur des fonds électoraux, alors que là, il peut se promener partout. Il ne se promène pas beaucoup, mais en tant que président. Alors, l'inconvénient de retarder, c'est que ce sera très difficile pour d'autres candidats qui pourraient se présenter, d'obtenir cette name recognition, la notoriété, et de construire leur campagne. Et donc, quelque part, ça, c'est bon pour Kamala Harris. Mais Kamala Harris, je pense qu'elle est très bonne comme vice-présidente. Elle est allée faire campagne, elle a fait un bon travail. Mais quelque part, elle n'est pas bonne comme candidate. Il faut voir ce qu'elle a fait en 2020. C'est pas bon.
Ça allait être ma dernière question, justement. Elle risque de devenir une pièce encore plus importante du dispositif de Joe Biden, puisqu'elle est aussi la présidente du Sénat. Si on a une majorité qui n'est atteinte ni d'un côté ni de l'autre, c'est elle qui va départager.
Il le faisait déjà.
Oui, en plaisanterie, on dit si par hasard les démocrates ont 51 voix, elle pourra voyager davantage. Mais c'est une plaisanterie. Non, c'est un problème parce que malheureusement, faire campagne, c'est pas la même chose d'être un bon gouverneur, un bon quelque chose. Elle a été une excellente procureure en Californie. Lorsqu'elle était au Sénat, dans les auditions, elle était très très bonne pour interroger les juges, par exemple, etc. Mais elle n'est pas bonne pour faire campagne. Est-ce qu'elle serait bonne comme président? On ne sait pas. Mais plus Joe Biden attend, plus, quelque part, elle est un petit peu la candidate obligatoire parce que les autres n'auront pas eu le temps de s'organiser. Ça, c'est peut-être un problème. Il faut espérer que le Parti démocrate est conscient de ce problème.
Anne Desine et Philippe Golub, merci beaucoup d'avoir été nos invités.
Merci.
Merci.
Merci aussi à Sébastien Natrol, Nathalie Laporte et Cécile Lavolo. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast sur RFI.fr ou sur vos plateformes de streaming préférées. Je rappelle aussi que les 2 numéros précédents de Géopolitique étaient consacrés aux États-Unis et permettent d'avoir une vue d'ensemble autour de ces élections de mi-mandat. Demain, ce sont les élections au Brésil qui ont donné Lula vainqueur contre Jair Bolsonaro, dont nous parlerons dans l'émission. D'ici là, restez à l'écoute. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.